Bonjour Monseigneur Brouvet.
Bonjour Anne-Rose.
Le samedi 19 septembre dernier, vous avez fait une prière de réparation à Lannemezan en réponse à la profanation de 63 tombes qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 août dernier. Alors on va revenir sur les mots que vous avez prononcés à cette occasion. D'abord, vous avez parlé d'une attaque à un lieu de mémoire, d'une attaque à un lieu où l'on témoigne de sa foi, et enfin une attaque au bien commun. Alors pour commencer, l'attaque à un lieu de mémoire. Le cimetière est un lieu de mémoire.
Oui, d'abord, avant tout, je crois qu'il était important que l'on fasse quelque chose par rapport à ces actes de profanation. La réponse n'est pas seulement une réponse médiatique dans l'émotion, où on se pose en victime, mais il y avait quelque chose à faire avec les familles, avec la municipalité, avec l'Église, avec l'évêque, pour toutes ces raisons. Et d'abord, de fait, un acte de mémoire, parce que le cimetière, c'est vraiment un lieu où on est fragile. C'est un lieu où on pleure, c'est un lieu où on est ému, c'est un lieu où on constate qu'on est face à l'échec de la mort, cette sorte d'échec absolu. Les parents qu'on a perdus ne reviendront plus. Et donc, cette fragilité, elle a été attaquée, elle a été moquée. Et je trouve que quand on a vu les familles, parce qu'avec le maire, ensuite, on a fait le tour des tombes qui avaient été profanées. Et j'ai remarqué ce que les gens disaient en disant c'est comme si jamais j'avais revécu le deuil de mes parents défunts. Je ne pensais pas que ça serait aussi dur. Je ne pensais pas que je serais aussi touché. Donc, il y a une violence qui est faite à l'âme. À l'âme en deuil en particulier, une violence qui est faite à la famille et qui est extrêmement perverse parce que d'abord on ne s'y attend pas évidemment, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas mettre des mots dessus. Et donc je crois qu'il fallait rappeler ça aussi, la douleur, la peine qui est faite et l'injustice de cet acte odieux.
Finalement, on est tous fragiles dans un cimetière, et c'est ça qui a été touché, en fait. Les personnes ont été touchées dans leur vulnérabilité face à la mort, en fait.
Oui, parce qu'on n'a aucune défense. Et ça nous arrive dans un lieu qu'on pensait infiniment respectable, si vous voulez, lorsque, je ne sais pas, vous êtes sur une antenne de radio comme là et que vous êtes attaqué par votre adversaire, vous pouvez supposer que si vous l'avez pris au micro, c'est parce qu'il y aurait une certaine tension, un certain combat. Bon, là, dans un cimetière, vous pensez que ça, au moins, ça va être respecté, parce que perdre quelqu'un, on ne peut rien faire contre, et puis on est sans force. Alors que là, justement, eh bien, comme vous le disiez, cette vulnérabilité a été attaquée, a été profanée.
Alors, la deuxième raison pour laquelle cet acte est grave à nos yeux, eh bien, c'est parce que c'est un lieu aussi où l'on témoigne de sa foi. Et ça, vous l'avez souligné également ce 19 septembre. C'est ça aussi qui a été attaqué et profané en quelque sorte.
C'est ça surtout qui a été profané, parce que les personnes qui ont fait ça ont détruit des croix de manière volontaire. Elles ont expliqué que. Alors là, il faudrait vérifier hein, avec les auteurs du crime, mais il semble bien qu'ils ont fait ça pour invoquer Satan, pour pouvoir réussir dans la musique, et qu'ils auraient été conduits à faire cela par un marabout. Donc, moi, je mets tout ça entre guillemets parce que je ne les ai pas entendus de leur voix. Mais je vois que des croix ont été cassées. Et donc, c'est vraiment les symboles du christianisme qui ont été touchés de manière délibérée. Je fais remarquer que quelques jours avant, fin juillet, l'église de Lannemezan avait été aussi taguée. On avait mis des symboles sataniques, là, très, très clairement, qui ont été retirés très vite par la mairie. Moi, j'ai béni les murs de l'église, les murs extérieurs de l'église. Il fallait. Je crois que la première chose, c'était d'implorer le Seigneur hein, pour le péché des hommes, parce que on est aussi solidaire de cette humanité qui se révolte contre Dieu. Et moi, je voulais que nous nous mettions à genoux devant la croix et que nous demandions pardon pour ce péché, même si ce n'est pas nous personnellement qui l'avions commis. Mais au fond, il y a quand même une humanité qui dit au Seigneur, on te demande pardon pour ce qui a été fait contre ta croix, contre ton Christ, contre le sauveur du monde, et réaffirmer notre foi aussi dans ce cimetière en invoquant le nom de Jésus, la litanie du nom de Jésus, en bénissant aussi les tombes avec l'eau bénite, et voilà, et en, en, en en redisant avec force que nous croyons dans le Christ Sauveur, vainqueur de la mort par sa résurrection.
Ces actes antichrétiens, ils ne sont pas nouveaux. Alors, on peut donner quelques chiffres. Alors d'abord, pour situer un peu, il y a 45 000 églises en France, 2200 mosquées, 500 synagogues, donc c'est tous des lieux de culte. Il y a des profanations ou des dégradations sur des lieux de culte de manière assez récurrente. En 2018, alors là ce sont les chiffres officiels, on avait enregistré 877 dégradations dans des églises en France. Ça c'est une réalité, ce sont des chiffres qui vous inquiètent, Mgr Brouvet?
Oui, parce que évidemment, on constate qu'en 2019, il serait un petit peu en augmentation. Bon, enfin, ça, les chiffres, il faut voir ce qu'ils disent, parce que moi, je fais une différence quand même entre aller dans une église parce que ce sont des gamins qui voient quelque chose d'ouvert et qui ont envie de brûler quelques livres, qui ont envie de mettre de l'encre dans l'eau bénite, dans le bénitier. Ça nous est déjà arrivé, hein. Ça, c'est des dégradations. Alors ensuite, il y a le vol. On entre dans l'église pour voler un tableau ou des porte-cierges. On veut voler quelque chose pouvoir le revendre ensuite. Et puis ensuite, il y a la profanation, c'est-à-dire qu'on attaque ce qui est sacré, l'autel, le tabernacle, les saintes espèces, le Seigneur présent dans l'Eucharistie, ou bien mettre des signes sataniques. Donc là, on touche vraiment, c'est vraiment la profanation. Donc quand on donne ce chiffre, je crois qu'il y a un peu tout ça, et qu'il est important quand même pour nous de bien distinguer, parce que il faut mettre des mots exacts sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas la même chose de trois gosses qui rentrent de l'école et puis qui font une bêtise dans une église, et puis quelqu'un qui vient ouvrir un tabernacle et disperser les saintes espèces. Là, il y a une profanation. On ne dit plus la messe tant que la messe de réparation n'a pas été célébrée. Et c'est un acte extrêmement grave.
Donc voilà, il y a ces actes antichrétiens et puis il y a ces attaques qui sont de toute façon toujours une attaque au bien commun. Et ça, c'est la troisième raison que vous avez évoquée lors de cette prière de réparation. Et ça aussi, c'est grave parce que c'est une attaque à la société, en fait.
Oui, alors ce qu'il y a derrière, c'est que ce sont des lieux publics, des lieux qui sont ouverts. Nous souhaitons que les églises soient le plus ouvertes possible, les plus ouvertes possible. Mais il y a des croix aussi qui sont à la disposition. Je disais que ce qui manque là, par exemple pour des gosses qui vont rentrer à la sortie de l'école et qui sont un peu désœuvrés et qui vont aller dans l'église brûler trois carnets de chants, c'est rapport au bien commun, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à tous, qui est symbole de notre communauté, du village, du quartier, de la commune, de la municipalité. Alors ça pourrait être aussi un lieu public qui ne soit pas un lieu chrétien. Ça peut être une statue, ça peut être un square. Mais alors on s'attaque à ce lieu ouvert à tous pour s'acharner contre quelque chose qui appartient à la collectivité, qui n'est pas spécialement privé, alors qu'il est ouvert. Et je trouve que là, il y a une atteinte à l'esprit du bien commun, à ce qu'on met à la disposition de tous. Et je faisais un petit parallèle avec les lotissements. Par exemple, dans les lotissements, vous avez des maisons alignées, mais vous n'avez pas de lieu commun en général. Vous n'avez pas une église, vous n'avez pas un local, vous avez très peu de choses, peut-être parfois un petit carré d'herbe. Mais on a besoin de lieux qui disent la communauté. Et on a besoin de lieux qui disent la collectivité, qu'on est ensemble, qu'il y a quelque chose qui transcende la pure possession individuelle pour montrer qu'on est une communauté rassemblée, une communauté de citoyens. Et ce qui me fait poser des questions en disant, est-ce que ces jeunes prennent conscience de ce qu'ils sont en train d'attaquer? C'est-à-dire, ils attaquent tout le monde, en fait. Et donc... ça me semblait aussi la raison de mon interrogation, parce qu'on ne peut pas non plus tout fermer. On peut pas, parce que beaucoup de maires, du coup, demandent que l'église soit fermée. Et je trouve ça dommage qu'on ferme tout, qu'on grillage tout, qu'on mette des codes partout, et que finalement, il n'y a plus d'accès libre à tout le monde, parce que ça, c'est un recul pour notre société.
Quelle est notre responsabilité de chrétien face à ça ? D'abord, est-ce qu'on a, nous, en tant que chrétiens, une responsabilité spécifique face à ce comportement ?
Bon, d'abord, moi, je crois qu'il faut que nos églises soient ouvertes et qu'on prenne les moyens pour que... Il faut peut-être attacher les cierges, il faut peut-être mieux arrimer les tableaux pour que ça ne soit pas volé. Peut-être qu'il faut aussi... on peut mettre aussi des caméras pour que pour exercer une surveillance. Mais il faut qu'on continue de faire de ces espaces publics, justement, des espaces ouverts à tous, qui interrogent, qui posent des questions. Parce qu'à côté de cela, on sait très bien que des gens demandent le baptême parce qu'ils sont entrés dans une église ouverte, parce qu'ils ont rencontré un prêtre qui était là à faire une permanence. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nos églises témoignent aussi du Christ qui ouvre ses bras. Et on a besoin de ces lieux de silence, on a besoin de ces lieux de recueillement, on a besoin de ces lieux qui nous élèvent. Et donc, ensuite, y a une question d'éducation. L'éducation, moi, nous connaissons un de ces deux garçons qui a fréquenté le catéchisme. Un des deux garçons qui ont vandalisé le cimetière, il a fait du catéchisme, il est connu du curé. Pas du curé de Lannemezan, mais d'un autre curé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme éducation derrière ? On sait que c'était une famille extrêmement fragile. Peut-être qu'il n'y a pas eu l'autorité d'un père pour dire la loi, pour dire les règles, pour dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Mmh. Et donc, ça aussi, c'est une question de culture. Où est notre éducation, justement, au bien commun, au respect des religions. On peut très bien comprendre que des gens ne soient pas chrétiens, mais on peut respecter les religions et la foi chrétienne. Et moi, j'ai insisté aussi sur le climat, parfois, qui peut régner dans les familles, où l'ironie, la moquerie au sujet de la foi, au sujet des croyants, au sujet des croyances, fait que finalement, des jeunes peuvent se sentir autorisés à tout faire, un petit peu comme en écho de cela. Et donc, nous avons tous une responsabilité sur l'éducation de nos enfants.
Vous nous invitez aux missions paroissiales. Elle est là aussi, la mission, cette éducation, cette explication de ce que sont ces églises, ces lieux de prière. Ça, c'est un lieu de mission.
Oui, je crois que derrière, la question qui se pose, c'est la question de la mort. C'est-à-dire, quel est notre rapport à la mort ? Quand on vandalise un cimetière, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et donc, je crois aussi que lorsque nous ne croyons plus en la résurrection, lorsque nous ne croyons plus à la victoire de Jésus sur la mort nous fait peur, la mort est angoissante, les cimetières nous angoissent, et les cimetières, du coup, deviennent des terrains de jeu, des terrains où les jeunes s'épouvantent. Il faut que nous fréquentions les cimetières. Il faut aussi que nous emmenions les enfants au cimetière. Quand j'étais curé, je faisais ça. Ça avait surpris au départ. Je dis non, il faut que chaque année, on aille dans le cimetière prier pour nos morts, apprendre à respecter nos morts, apprendre aussi que nous croyons que la mort n'a pas le dernier mot et que lorsque nous sommes enterrés, nous sommes tout de même invités à la vie éternelle. Et donc, qu'est-ce que nous faisons de la mort ? Comment nous parlons de la mort ? Comment nous mettons ensemble en famille face à la mort d'un proche, quels sont les mots que nous posons dessus et comment est-ce que nous accompagnons les enfants. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que parfois, on a peur de parler de la mort aux enfants, on a peur de les emmener aux enterrements, on veut leur cacher la mort, mais ça n'est pas une solution, parce que lorsqu'on ne sait plus mettre des mots, ils vont trouver des mots ailleurs, et ils vont trouver, disons, des comportements sur Internet, et puis, alors peut-être aussi en téléphonant à d'autres, ils reçoivent des conseils d'adultes que nous n'avons pas, nous, envie de leur donner.
En tant que chrétien, alors on a vu beaucoup de réactions quand la profanation au cimetière de Lannemezan a eu lieu au mois d'août, des réactions de colère, d'indignation, de découragement aussi de la part des chrétiens. C'est naturel ce sentiment parce qu'on est dans l'immédiateté de l'événement, parce que les réseaux sociaux font que tout se sait très vite et il y a des réactions à vif. Comment faire en tant que chrétien pour prendre du recul ? D'ailleurs, cette prière de réparation n'a pas eu lieu juste après, elle a eu lieu un mois après. Comment faire en tant que chrétien pour savoir prendre du recul et peut-être prendre le temps de la prière face à ces actes qui nous mettent en colère ?
Je crois qu'il faut, pour avoir une réponse proportionnée, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Si nous avons célébré le 19 septembre, c'était que l'émotion immédiate était passée. D'abord, on était sortis des vacances et donc les gens étaient rentrés aussi. On a pu réunir des familles, mais les jeunes coupables ont comparu immédiate. Ça veut dire qu'ils étaient déjà jugés, ils étaient déjà en prison. Je salue aussi la fermeté de la justice dans cette affaire. Et donc, il y avait déjà une connaissance aussi. Qu'est-ce qui s'était passé? Qui avait fait cela? Pour quel motif? Et donc, pour que notre réponse soit proportionnée, il faut aussi qu'on comprenne ce qui s'est passé. Il faut aussi que les familles elles-mêmes aient eu le temps, par exemple, de racheter une croix. Parce que on a vu là sur les tombes que des personnes avaient nettoyé, avaient racheté des croix, avaient déjà commandé une plaque qui avait été cassée. Elles avaient pu en parler ensemble. La mairie s'était déjà réunie. Il me semble que il est bon aussi d'attendre un petit peu avant d'avoir une réaction pour qu'on on comprenne ce qui s'est passé. Par exemple, est-ce qu'on était dans la profanation? Est-ce que c'était des jeunes qui étaient juste alcoolisés? Vous voyez, on peut... Est-ce que c'était un jeune qui était juste en colère parce qu'il venait de perdre son père? Vous voyez, il y a mille explications. Il ne faut pas se jeter sur la première explication. D'ailleurs, j'ai vu que sur Internet, le nombre de tombes profanées a varié parce qu'au départ, on ne savait pas très bien ce qui s'était passé. Donc... voilà, il me semble que, comme chrétien, on a le devoir, qu'on lâche son émotion sur Internet, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'évêque, lorsqu'il réagit avec les chrétiens, avec la municipalité aussi, il faut qu'il prenne quelques renseignements et puis il faut qu'on réagisse plutôt à froid, quoi.
Merci beaucoup, Mgr Brouvet. J'indique que votre discours est accessible sur le site internet du diocèse www.catholique65.fr et puis on peut réécouter cette interview en podcast sur le site de Radio Présence. Merci, Monseigneur.
Merci, Anne-Rose.